La consommation, un gain ou une perte? Apparemment, c'est une question fermée. Donc, un gain ou une perte? Ça veut dire qu'on répond comment à une question fermée? Par oui ou par non. Le problème, c'est qu'on nous a donné 45 minutes pour répondre oui ou non. Alors, ben, je ne peux pas répondre oui ou non, donc on va essayer de discuter un peu. Donc, pas de réponse claire. Alors, si vous trouvez à la fin que la réponse n'est pas claire, j'aurais peut-être pas atteint mon objectif à moi, mais celui des organisateurs. La consommation, un gain ou une perte? La question est déjà un petit peu choquante en elle-même, puisque gain ou une perte, c'est une allusion directe à un verset de la Bible, Philippiens 3. Consommation, c'est aussi un mot qu'on trouve dans la Bible. La consommation du siècle, des choses comme ça. Mais manifestement, si on prend le mot dans ce sens-là, il y en a un petit problème de compréhension, et même au bout de 45 minutes, on n'aura pas même éclairci la question. Alors, c'est vrai que les organisateurs ont pris la liberté de prendre un mot du langage courant et de l'associer avec deux autres termes qui sont, eux, employés dans la Bible, avec le même sens que dans le français courant. Alors, pourquoi y a-t-il d'ailleurs ce double sens? Eh bien, consommation a le sens d'abord de faire la somme d'eux, c'est-à-dire arriver à la totalité, arriver à un accomplissement, arriver à la réalisation, c'est le sens de consommation du siècle. Et puis, ce mot a fusionné avec un autre mot qui est le mot tout simplement consumé depuis assez longtemps. C'est pour ça qu'il peut y avoir cette ambiguïté sur le sens. Est-ce que c'est une question d'actualité? Alors, Lucien en a parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans la société de consommation. Cependant, ce n'est pas qu'une question d'actualité. C'est une question universelle. Parce que quand on prend une décision, en fait, on fait toujours un calcul. Si je fais ça, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Alors voilà le plan de l'exposé, le système de consommation. On va décrire un petit peu. Je ne vais pas passer 45 minutes à vous faire la morale pour dire que trop consommer, c'est pas bien. Consommer modérément, c'est bien. Ça, vous avez déjà compris, vous savez déjà. Mais on va essayer de décrire, de décrypter le système. Ensuite, comment le consumérisme, alors c'est un néologisme, c'est pas biblique, excusez-moi, mais ça décrit donc le système de pensée, de philosophie qui est derrière la société de consommation. Les effets négatifs du consumérisme, l'impact négatif, les inconvénients, et puis comment garder l'équilibre. Mais un équilibre, c'est quelque chose de dynamique, et chacun un peu le sien. Conclusion, on verra si on a le temps. Une question universelle, le calcul, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds quelque chose? Et toutes nos décisions sont fondées sur cette estimation. Le problème, c'est qu'on fait souvent des mauvais calculs. Et pourquoi on fait des mauvais calculs? Les économistes appellent ça l'aversion de la perte. On n'estime pas la perte son juste risque. Et quand la perte est là, on la minimise toujours. C'est pour ça que les gens qui veulent vendre leur maison dans un marché en dépréciation n'acceptent pas l'idée qu'il faut baisser le prix. On imagine mal la perte et la nécessité d'en prendre compte. C'est aussi une question ancienne. La consommation. Qui était la première personne à s'être demandé, ben, qui était la première personne à se poser la question, est-ce que je consomme ceci ou pas? Merci pour la réponse, c'était Ève. Donc vous voyez que tout a démarré sur une histoire de choix de consommateur. Et ça montre aussi que la convoitise, elle existe dans le cœur de l'homme, indépendamment de la société dans laquelle il se trouve, que ce soit une société de consommation ou bien que ce soit une société beaucoup plus traditionnelle et non portée vers la consommation. À l'inverse, autre exemple, qui s'est posé la question, est-ce que je vais consommer ce pain ou pas, comme le suggère mon interlocuteur? Alors, il y a eu David, c'est vrai, mais un autre personnage particulièrement marquant, comme un chef de file, si on peut dire. Alors, c'était le Seigneur lui-même. Quand le diable l'a tenté, il lui a dit, fais de ces pierres du pain. Donc c'était aussi, dans un sens, un choix de consommation qui pouvait répondre à un besoin. Alors, vous voyez que c'est une question capitale, parce qu'elle oriente, elle a orienté l'histoire de l'humanité. Par Ève, elle a orienté l'humanité vers le péché, et avec le Seigneur, elle a réorienté, ouvert une piste vers la vie, vers quelque chose de très positif. Alors, ces choix de consommateurs peuvent aussi orienter toute notre vie. Et puis, vous pensez à d'autres personnages qui ont fait des choix de consommateurs. Ben, il y a eu Ésaü avec son plat de lentilles, il y a eu Isaac avec son plat de gibier, et on peut imaginer encore beaucoup d'autres cas de ce même genre, et leur choix de consommateurs a orienté leur vie. Alors, dans les deux cas, Ève comme le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de commun ? Ben, c'est le même interlocuteur, le même spécialiste du marketing, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il suscite ou il fait appel à un désir ou à un besoin. Et puis, il pousse au péché par une consommation inappropriée. Donc, ça nous montre déjà l'enjeu. Si on consomme mal, eh bien, en fait, on fait le jeu du diable. Et le but du diable avec la consommation, dans les deux cas, et dans tous nos cas aussi, eh bien, c'est de nous éloigner de Dieu et de nous plonger dans le monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, la valeur de ma vie dépend en grande partie de mes choix de consommateur. Et finalement, il se passera ce qu'on a vu dans Corinthiens 3. Ce qu'on voit dans Corinthiens 3, eh bien, le feu mettra tout à l'épreuve. Question très large. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, la consommation. On peut consommer des choses gratuites dans la nature, on peut consommer des choses qu'on produit soi-même, et on peut consommer aussi, par exemple, des choses sur Internet, ou comme ça, des choses de l'État, des prestations, des services publics. Donc je ne veux pas réduire cette question de consommation à une question d'argent, même si, bien sûr, d'argent, il fait beaucoup. C'est une question très large aussi parce qu'elle concerne beaucoup de domaines, la nourriture, l'habillement, la culture, les loisirs, les distractions, les vacances, le travail et même le spirituel. On y reviendra. C'est une question difficile parce que aussi le gain et la perte ne sont pas dans le même genre d'unité. Et par exemple, si je fais un bon repas, j'apprécie maintenant le gain, mais je vais payer plus tard. Ça peut se voir d'ailleurs. Donc ce n'est pas le même moment et ce n'est pas la même nature. Et puis c'est une question difficile à traiter parce qu'il faudrait la traiter un peu différemment dans chaque culture. Et puis il faut éviter aussi le danger du légalisme. C'est pour ça que je ne vais pas donner beaucoup d'exemples parce que je ne voudrais pas faire allusion à des situations précises. Alors, on va analyser un petit peu la consommation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans Wikipédia, j'ai vu que la consommation est l'acte d'achat ou l'utilisation de biens et de services, généralement dans le but de satisfaire ses besoins ou ses désirs. Alors, le problème, c'est de savoir ce que c'est qu'un besoin. En principe, c'est quelque chose de basique, de fondamental, plutôt physiologique, quelquefois un peu psychologique. Les désirs, alors ça peut être plus artificiel, beaucoup plus psychologique ou lié à la société. Un gain, c'est pas vraiment une définition, mais ça s'associe à l'idée de profit, de bénéfice, d'accroissement. Et la perte, on peut l'associer à une idée donc de privation, de vide, de préjudice, de déchéance, de dégâts. On a perdu tant de choses dans les inondations ou autres. Dommage, gaspillage, déperdition. Et le sens extrême, c'est la ruine ou même la mort. Alors j'essaie de résumer un petit peu les différents processus de la consommation. Consommation, c'est un système avec un consommateur, en face un fournisseur, et entre les deux, un produit qui fait l'objet d'une offre et de demande. Alors, à gauche, une liste un peu artisanale des besoins, des plus fondamentaux aux plus nobles, aux plus élevés. On ne va pas reprendre la liste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais un exemple de produit spirituel, c'est une expression qui vous choque peut-être, mais c'est simplement cette rencontre aujourd'hui. Gival, c'est un produit qu'on vous fournit, qui a été préparé, qui a été même emballé avec des badges, avec des pliants. Donc il y a eu une promotion, un peu de marketing. Et puis, vous êtes là dans la situation un peu de consommateur recevant un produit. Et moi, j'essaye d'être un peu le livreur. Une réunion pour les jeunes, c'est aussi un produit qu'il faut préparer, qu'il faut concevoir, qu'il faut adapter aux consommateurs, qu'il faut annoncer, et il faut même faire le service après-vente, assurer un certain suivi. Vous voyez, le terme de consommateur n'est pas forcément négatif, c'est un mode de fonctionnement qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Alors au milieu, donc il y a en fait, il aurait fallu faire deux colonnes du milieu, mais les fournisseurs proposent des produits de différentes sortes qui répondent plus ou moins aux besoins et aux désirs. La question qu'on peut se poser, bien, c'est quelle est la valeur de ces produits, quelle est la durée, quelle est la qualité? Est-ce que c'est quelque chose qui répond vraiment à mes besoins profonds ou pas? La contrepartie, il y en a en général. Ben, ça peut être de l'argent, bien sûr, mais aussi du travail. Ça peut être du respect, une dépendance dans les cas extrêmes. Si je m'habitue à un produit, à une drogue, à un médicament, à du café, pourquoi pas, si c'est un produit spirituel, si je deviens un esclave des réunions ou de telles revues, eh bien, c'est peut-être un peu excessif. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le rapport qualité-prix de ce produit fourni par donc le fournisseur. Et puis, les deux cases du bas de la colonne du milieu, c'est, en fait, j'aurais pu le mettre en haut, les consommateurs expriment des désirs ou des besoins de produits. Ça s'exprime par des sondages ou par simplement les statistiques de la consommation, des parts de marché, l'audimat ou des choses comme ça. Et puis, les fournisseurs eux-mêmes, eh bien, ils contribuent à créer, à modifier, à détourner, à détruire des vrais besoins ou de mauvais besoins, des bons désirs ou des mauvais désirs. Chez les fournisseurs, il y a donc, on peut, disons, à droite en haut, regrouper la première case, le monde extérieur, la nature, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les médias, l'État, l'école, tous les services publics. Ensuite, il y a l'entourage, que ce soit la famille, les pairs, c'est-à-dire les égaux, ceux de la même catégorie, du même groupe. Et puis, il y a l'assemblée, l'église, que ce soit des frères, des sœurs du même âge, d'autres jeunes ou bien des enseignants. Et tout en bas, alors, il y a les deux grands fournisseurs en amont, les vrais grossistes, si on peut dire. C'est Dieu, avec qui lui fournit des produits de vérité, d'amour et avec la vie. Et puis celui qu'on a appelé tout à l'heure le prince de ce monde, caractérisé par le mensonge, la destruction, donc c'est vraiment le mauvais fournisseur. Si on avait le temps, on ferait un petit exercice comme ça. Prenez un besoin dans la catégorie A, et puis un produit dans la colonne B, et demandez-vous à quel fournisseur on s'adresse pour ça. Il y a des bons fournisseurs, des mauvais fournisseurs, des bons produits, des mauvais produits. En général, les bons fournisseurs fournissent de bons produits, mais on peut aussi choisir un produit inadapté. Si je fais une bonne réunion, mais d'une mauvaise façon ou d'une façon inadaptée, ben finalement, je donne quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais qui est quand même un produit qui ne répond pas à l'attente de mon consommateur. Alors malheureusement, on n'a pas le temps. S'il y avait des ateliers, on le ferait au cours des ateliers. Quelques remarques sur ce tableau quand même, ben la consommation elle est indispensable. Si on ne consomme pas, on ne vit pas, tout simplement. Si on ne mange pas, si on ne réfléchit pas, si on ne se distrait pas, on ne vit pas. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais consommateur? C'est un consommateur qui est mal informé et qui ne connaît pas bien le fournisseur et pas bien le produit. Alors, on conçoit très bien que pour acheter de la nourriture ou quelque chose comme ça, on s'informe vraiment. Mais si c'est un besoin spirituel, ben on a aussi intérêt à s'informer sur la qualité de produit et la qualité du fournisseur, son origine, en quelque sorte appliquer la traçabilité aux produits reçus. Et si on est mauvais consommateur, eh bien, résultat, c'est une perte, parce qu'on est déçu, on est appauvri, on est trompé. Le bon consommateur, c'est celui qui est bien informé, et celui qui a bien calculé le gain et la perte, à court terme, à long terme. Et le bon consommateur, qui connaît bien le produit, qui connaît bien les conséquences, qui connaît bien le fournisseur, eh bien, lui, il va être enrichi, il va être satisfait. Et là, il a connu un gain. La tendance naturelle, c'est de se voir plutôt en tant que consommateur. Moi, j'ai droit à ça, j'ai besoin de ça. Et on devient un peu exigeant, on a des attentes. Mais en fait, il faut se voir aussi comme fournisseur dans l'histoire. Donc la consommation, oui, mais aussi la production, aussi la transmission, la livraison. Il ne faut pas se voir seulement en tant que consommateur. Des parents s'occupent des besoins de leurs enfants, les grands-parents s'occupent des enfants et petits-enfants. Dans l'assemblée, les parents spirituels, les pères s'occupent les uns des autres. Donc on a aussi un rôle de fournisseur les uns avec les autres. Et un fournisseur, eh bien, il doit toujours penser à améliorer son offre, la qualité du produit, mais aussi l'emballage, packaging, comme on dit, ça fait mieux. Il faut améliorer aussi le service de la livraison, l'information, et je répète encore, le service après-vente, c'est important quand on est un fournisseur. Par contre, quand je suis un fournisseur, ça change un peu la nature des transactions, parce que très souvent, si je ne suis pas un fournisseur commercial, je suis un fournisseur de services non marchands, donc il n'y a pas de contrepartie financière. Ce qui veut dire que très souvent, si on veut avoir ce rôle d'apporter, eh bien, on sera amené non pas à consommer, mais à donner. Même pas vendre, donner. Alors il y a une opposition entre cette mentalité de consommateur, je prends, j'achète, mais il ne faut pas perdre de vue aussi cette idée qu'on a à apporter, à donner aux autres. Mais quand on est vraiment consommateur-consommateur, on pense qu'à soi. Ce qui est important aussi dans la consommation, c'est de voir qu'un produit peut répondre à plusieurs besoins. Par exemple, si j'ai un problème de transport, j'aurai une voiture. Alors si je veux le meilleur rapport qualité-prix, je vais acheter une Dacia ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien parmi vous ont une Dacia. Ça veut dire que ce n'est pas notre seule et unique préoccupation. On est exigeant un peu sur la qualité, et puis au fond, on pense aussi un petit peu à l'image que ça donne. Alors c'est vrai dans le monde professionnel, si vous êtes banquier et que vous venez avec une vieille R4 à la banque, on va vous dire que vous n'êtes pas sérieux. Mais même, alors je ne vais pas citer des marques, on ne va pas faire un sondage, quels sont les pourcentages des marques de voitures représentées ici. Mais la voiture, par exemple, c'est donc un signe d'identité. Si j'ai une montre, je peux avoir une montre très basique, ou bien je peux avoir la Rolex à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Alors il paraît que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est grave. Mais pourquoi c'est grave? C'est quand on a vraiment envie de donner une image de soi que c'est important d'avoir la Rolex. Alors un produit sert à un service, donnez-leur, de transporter, mais il y a aussi toujours un facteur d'identité, d'identification à un groupe qui est très important, et ça c'est un des choix difficiles qu'il y a à faire quand on consomme. Je voudrais quand même parler du bon fournisseur, parce que c'est quand même important de savoir quelle est la source. C'est vrai que je ne vais pas citer beaucoup de versets, en tout cas dans cette première partie, parce que c'est une partie d'analyse. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue ce qui est fondamental. Le bon fournisseur, eh bien, c'est notre Père. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Et dans Matthieu 6, « Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, il ne faut pas en tout cas que les problèmes de consommation prennent le dessus. Mais on a intérêt à nous adresser aux vrais fournisseurs ou bien à ses représentants, ses succursales. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être l'Assemblée. En tout cas, quelqu'un qui nous apporte quelque chose de la part de Dieu. Je vais quand même dire encore quelques mots sur la société de consommation et ses principes. La société de consommation est un système de pensée, de valeurs et de fonctionnement. Ce n'est pas simplement une organisation économique. Le but, c'est quoi? C'est de privilégier le cycle consommation-production avec l'idée d'augmenter la richesse. Ça, c'est la version capitaliste, si on peut dire. Il y a aussi une bonne raison de développer la société de consommation. C'est d'augmenter l'emploi. Et c'est vrai qu'avoir un emploi, c'est important. Mais le cas extrême, c'est un peu cette histoire de prime à la casse. Donc on va détruire des objets, des voitures, des questions d'état de marche, simplement pour réalimenter, faire fonctionner ce cycle de consommation-production. C'est aussi pour élever le niveau et la qualité de vie. Ça, c'est la version sociale. Plus on consomme, plus on est à l'aise, plus c'est confortable, plus c'est agréable, plus il y a de loisirs, etc. Et puis au fond, il y a la version philosophique de la société de consommation. C'est l'idée qu'on peut, ou qu'on pourrait, ou qu'on cherche à atteindre le bonheur en satisfaisant tous les besoins et tous les désirs, toutes les envies. Alors ça, on sait très bien que dès qu'un désir est satisfait, il y en a tout de suite un autre qui va apparaître après. Donc, c'est un peu illusoire. Ceci dit, il faut être réaliste et honnête. C'est un système pourri. Mais est-ce qu'on est si mal à l'aise dedans? Au fond, quand on voit nos maisons, la mienne, ma voiture, ben c'est vrai que je profite assez largement de cette société de consommation. Et puis, pour la plupart d'entre nous, on est tombé dedans quand on était petit. On est né dedans, on a grandi dedans. On a fait des études ou des formations qui correspondent aux objectifs de cette société. Donc, on est dedans, qu'on le veuille ou non, il faut simplement essayer de la maîtriser. Comment le consumérisme imprègne notre esprit? Il y a le marketing. Et le marketing, j'ai trouvé une définition dans un livre universitaire. C'est l'ensemble des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir dans les publics auxquels elle s'intéresse, des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Alors je répète, c'est un peu compliqué, ça fait sérieux en tout cas. L'ensemble des moyens dont dispose une organisation, commerciale, industrielle, politique, religieuse, pourquoi pas, pour promouvoir dans les publics auxquels elle s'intéresse, des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Donc le marketing, ce n'est pas de l'altruisme, c'est simplement manipuler, au fond, un public pour des objectifs qui sont favorables, pas forcément au public, mais à l'organisation qui déclenche cette campagne. Alors ça, c'était la technique de Satan, avec Ève, avec le Seigneur et avec nous aussi. Alors, je ne dis pas que le marketing est forcément diabolique, hein, mais ça a été utilisé, et c'est toujours utilisé, par le diable pour nous séduire. À propos de cette définition, c'était dans un manuel édition 1996. L'autre jour, je suis passé dans une librairie, j'ai vu la nouvelle édition et ça a été, bien sûr, très nettement édulcoré parce que cet aspect manipulateur était quand même politiquement pas très correct. La publicité, il semble qu'aux États-Unis, une personne normale qui se travaille, qui se déplace, et exposé chaque jour à 3500 messages publicitaires, le long des routes, dans le journal, aux informations, à la télé, à la radio, partout, hein, vous avez des messages publicitaires. Je cite aussi, à propos de la publicité à la télévision, un PDG de chaîne française qui expliquait son rôle de vendeur d'espace publicitaire, de spot, comme ça. Il disait ça, c'est vendre du temps de cerveau disponible. C'est clair. Je propose aux annonceurs du temps de cerveau disponible chez les téléspectateurs. Ça s'adresse non pas tellement à nos besoins, ça s'adresse à notre cerveau, à l'inconscient, au conscient, au désir, à la convoitise, Et c'est ça qu'on vend aux annonceurs. Je me permets aussi, je ne sais pas si vous voyez ici, une de mes sources pour la préparation de cette rencontre. Ce n'est pas ma lecture habituelle. Je ne la recommande pas aux adolescents, je la recommande aux parents. Parce que vous allez voir dans quel bain sont vos enfants et adolescents. Alors, un journal pour adolescents. Bon, je pense que vous ne voyez pas très bien. Ce sont des photos de vedettes. Alors, je peux vous les citer. Je ne les connais pas par cœur. Je n'ai pas cherché à retenir ça. Enfin, peu importe. Hein, Kate Moss. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Paris Hilton, vous connaissez ? Vanessa Paradis. Alors, on les montre dans leurs accoutrements. Enfin, pardon, dans leur habillement chic. Et puis, voilà ce qu'on propose comme idole, comme modèle, comme source d'inspiration pour les jeunes. Bon, il y a les pages aussi fringues, pardon, habillement, pour rester correct, et puis maquillage. Donc, il y a la publicité, mais pas que la publicité. Ça, c'est pas de la pub, c'est du reportage. C'est pour ça que j'ai marqué aussi les médias. Parce que les médias, même quand ils font de l'information, en fait, ils valorisent la consommation. Il y a les pairs. Si, par exemple, vous êtes à l'école, étudiant, collégien, vous n'avez pas votre téléphone portable, vous n'avez pas vos baskets marque je ne sais pas quoi, vous n'avez pas votre t-shirt truc, votre casquette machin, votre je ne sais pas quoi, votre sac avait marqué dessus le nom d'une marque prestigieuse, si vous avez un classeur mais que ce n'est pas marqué chevillon ou chevignon, je ne sais pas quoi dessus, mais vous n'êtes pas branché, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas dans le groupe. Alors, simplement pour être intégré, accepté, et le besoin d'intégration, le besoin d'acceptation, c'est un besoin fondamental. Donc, je ne veux pas critiquer ou accabler ou condamner cette consommation-là, parce qu'on ne peut pas dire simplement « il n'y a qu'à » ou « faut pas », « faut pas en tenir compte », etc. Donc, je ne mettrai pas ces magazines sur la table là-bas. L'éducation aussi est un facteur de consommation, parce qu'on inculque dans l'école, ben, tu es le meilleur, tu as droit à tout, tu te réalises comme tu veux. Alors Sartre disait l'existence précède l'essence. Donc le fait d'exister, ou en existant, je me définis, mais je ne suis pas défini d'abord par ma nature humaine. Ce n'est pas l'essence qui détermine l'existence, c'est l'inverse. Ça veut dire que j'ai le droit de me définir moi-même. Alors, j'ai aussi, je ne vais pas vous le lire, mais quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est le monde version ado. Mais là aussi, vous voyez l'introduction, mais tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu as droit à tout, tu as plein de projets, tu peux te construire, tu peux aimer comme tu veux, sous-entendu beaucoup de choses. Et voilà ce qu'on inculque à la jeunesse. Et malheureusement, ça rentre aussi. J'ai marqué aussi la famille, l'église, facteur de consommation. Alors là aussi, il faut être honnête. Quand on fait bien plaisir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait pas trop de bêtises, en tout cas pas en public. Et puis ça veut dire aussi qu'on travaille bien à l'école, et puis qu'on va loin dans les études, et puis qu'une fois qu'on est allé loin dans les études, on aura une belle situation, avec une belle maison, belle voiture, nanana, nanana. Alors, il ne faut pas nier, je pense peut-être que ça a diminué maintenant, mais on peut se poser la question, quel est le rôle de la famille ? Si par exemple il y a un enfant qui réussit bien, un autre qui réussit moins bien ou qui est moins scolaire, est-ce qu'on ne va pas faire pencher un peu la balance ? En tout cas, où est ton frère ou ta sœur ? Lui, il a bien travaillé, et puis toi, bon. Sous-entendu, quoi ? Sous-entendu, tu vas gagner moins que lui plus tard, ton statut sera moins bien. Finalement, c'est presque sous-entendu, tu vas nous faire honte. Alors soyons très attentifs aussi, parce qu'en poussant le plus loin possible, on pousse à la société, plus loin dans la société de consommation et on n'a plus de temps et on ne fait que s'occuper de ses affaires et on ne pense qu'au prochain objet à remplacer. Alors, quels sont les effets négatifs ? Sur le monde, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais on voit le spectacle, la pollution, les inégalités, Et comme disait Jacques Delors, la société de consommation a privilégié l'avoir au détriment de l'être. Sur la personne, le consommateur, c'est le roi. Il n'a que des droits, il a des droits, tous les droits, rien que des droits. Donc on devient égocentrique. On devient aussi facilement insatisfait, parce qu'on se compare toujours à quelqu'un qui a plus. Et puis dès qu'un désir est satisfait, tout de suite il est remplacé par un autre. Donc on est encore insatisfait. L'immaturité. Pourquoi? Parce qu'on privilégie l'immédiat au détriment du moyen ou long terme. Et on prend des décisions simplement ou selon les premières conséquences immédiates. Donc je fais ça, et bien tout de suite je vais gagner, je vais profiter, mais on néglige, on oublie, on minimise la conséquence à long terme. La consommation peut aussi générer une dépendance. Alors il y a des exemples, je ne vais pas les citer, mais un excès de consommation répété, finalement qui n'apporte plus de plaisir en elle-même, mais si on la cesse de consommer ce produit, alors on est en manque. Donc une dépendance, l'opposé de la liberté, c'est-à-dire une perte. Sur la famille, eh bien, quand chacun est consommateur, je ne dis pas que ça détruit nécessairement la famille, mais ça fait aussi que chacun pense à ses propres objectifs. Alors, je sais que la télévision, par exemple, a fait des problèmes dans les familles. Du temps où il n'y avait qu'une chaîne, ça allait. Quand il y a eu 3 chaînes, ça s'est compliqué. Mais quand il y a 50 chaînes et quelques, qu'est-ce que la télévision déclenche? Ben, des conflits, parce que chacun veut regarder son programme. Alors, il y a la solution de dire ben, chacun a sa télé dans sa chambre. Alors là, c'est l'éclatement de la famille. Chacun dans son coin. Ça mène aussi à des cas de divorce, famille recomposée, chacun étant toujours centré sur soi, et j'ai droit à mon privé, et j'ai droit à faire ce que je veux, et j'ai droit de consommer ce que je veux, quand je veux, l'autre pas forcément. Donc, bah, écoute, toi aussi tu es un consommateur, moi aussi, je vais consommer à ma façon ce que je veux, de mon côté, et toi, tu vas faire ta vie. Tu vas consommer comme tu veux, ce que tu veux de ton côté. Sur l'Église, c'est peut-être un peu plus délicat, mais on peut voir chez nos amis américains ce que ça donne. Alors il y a quelqu'un qui a dit que le christianisme a commencé comme une foi en Palestine. Le christianisme a bougé en Grèce, c'est devenu une philosophie. Ensuite, c'est allé à Rome et en Europe, c'est devenu une institution. Et puis c'est passé encore plus loin à l'ouest, aux États-Unis, et c'est devenu un show business. Alors c'est caricatural, c'est méchant, mais c'est un petit peu quand même la tendance. Moi j'ai lu des ouvrages d'Américains, même chrétiens, non chrétiens, sur les tendances des églises américaines. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en plein système de consommation. Des fournisseurs, ce sont des églises, qui sont en concurrence pour capter des consommateurs. Il y a plus d'offres que de demandes, donc il faut que l'offre fasse de gros efforts pour conquérir des parts de marché. Alors ça veut dire des belles salles, mais c'est quoi ces chaises-là? C'est nul. Il faut au moins des fauteuils où on se sente bien, inclinable, dossier, avec massage de dos, une sono, une climatisation. Et puis si je n'ai pas ça, ben, je vais aller dans une autre église qui va me proposer ça, en plus un parking avec un goudron là tout lisse, bien noir, une bonne signalisation, un peu d'effets spéciaux pendant les prédications, ça changerait de ça. Vraiment un produit bien emballé qui séduit le consommateur, tout en sachant qu'il faut toujours améliorer le produit, donc plus de technique, plus de technologie, parce que sinon le consommateur va partir chez la concurrence. Le bilan. Bien, la société de consommation, elle excite la convoitise. La convoitise, on l'a toujours au fond de nous. C'est une des marques du statut de pêcheur. Et elle suggère des objectifs qui sont les objectifs du monde. Et en fait, ces objectifs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, ils sont à court terme. Ça sera un peu de plaisir tout de suite. ça sera un meilleur statut dans quelques mois, dans quelques années. Alors cette société, elle nous entraîne à utiliser toutes nos ressources pour atteindre ces objectifs. Et en résumé, cet objectif, c'est quoi? Comme dit la Bible, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est un peu caricatural peut-être, mais c'est le principe fondamental de la société de consommation. Il n'y a rien après, on n'a qu'une vie, profitons-en. Ça, je l'achète parce que je le vaux bien. Allons-y, continuons au maximum. Alors, est-ce que c'est ça les objectifs du chrétien à court terme? Manger, boire, parce qu'il n'y a rien après? Non, le chrétien a une autre perspective. Et la société de consommation nous fixe des objectifs qui sont toujours bien en deçà, bien en dessous des objectifs que Dieu veut nous proposer. Et si on visait ces objectifs plus haut, on aurait aussi des réponses et des degrés de satisfaction beaucoup plus hauts. C'est ça l'inconvénient de la société de consommation. Elle nous fixe des objectifs bas, nous éloigne, nous fait oublier les objectifs que Dieu voudrait nous apporter. Comment garder l'équilibre? Je pense que c'est bien d'avoir une journée comme ça pour y réfléchir un peu, prendre conscience. Sinon, on est dans le courant et puis on suit avec le courant. Il faut être donc réaliste, parler du sujet et puis se rappeler les limites du monde. Alors, je lis ce verset de 1 Corinthiens 7. Je vous assure, frères, alors permettez-moi, mais je le lis dans la version Parole Vivante qui emploie des mots plus simples, plus faciles. Le temps est bien limité. Que ceux qui achètent ne se cramponnent pas à leurs possessions, qu'ils ne les considèrent pas comme leur propriété. Qui sait pour combien de temps elles leur appartiennent? Bref, que tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde en vivent détachés, et que ceux qui jouissent de ces biens apprennent à s'en passer, car la figure de ce monde passe et le présent ordre des choses s'achemine vers son déclin. Je ne veux pas restreindre votre liberté, mais seulement promouvoir parmi vous une vie digne et bien ordonnée. J'aimerais vous encourager à vous consacrer au Seigneur sans réserve, à vous attacher à lui sans partage, à le servir sans que rien ne vienne vous en détourner. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. Ensuite, il faut se rappeler qu'il y aura un bilan. 1 Corinthiens 3, selon ce que vous construisez sur ce fondement, eh bien, le feu va éprouver. Et remarquez que c'est exprimé en termes de consommation, les matériaux employés pour la construction. Je cite aussi le cas des soldats de Gédéon. Cette histoire où Gédéon veut aller combattre, et puis il part avec une grande armée, et Dieu lui fait réduire son armée. Et quel était le test pour sélectionner les soldats qui devaient l'accompagner? C'était même pas la nature de la consommation, ça c'était un besoin réel qui n'était pas contesté, boire de l'eau, mais c'était la façon de consommer cette eau. Ça c'était le test. Alors, si on se couchait dans l'eau parce que vraiment, on oubliait tout le reste, on était tellement soulagé de pouvoir s'hydrater un petit peu qu'on se plongeait dedans, on oubliait la guerre, l'objectif, la tension du moment, éliminé. On n'est pas bon. Mais si on lapait seulement, on prenait un peu d'eau dans le creux de la main, parce qu'on pensait à l'objectif, on pensait au but, on pensait à la mission, on pensait au défi, alors là, on était quelqu'un qui était digne d'être appelé. Ceux qui avaient bu tranquillement, confortablement, n'étaient pas mauvais. Ils n'étaient pas condamnés. Ils n'étaient pas traités d'infidèles ou des choses comme ça. Simplement, ils n'étaient pas dignes d'un appel spécial pour cette mission-là. Il faut aussi s'en rappeler, je peux utiliser la même ressource que quelqu'un d'autre, mais peut-être que lui, il le fait avec prudence, sans oublier l'objectif. Et pour moi, c'est l'objectif final. Je vise simplement ça. Je veux avoir cette marque de voiture. J'en rêve depuis que j'étais petit. Ce n'est pas pour aller au culte, ce n'est pas pour aller voir des amis, ce n'est pas pour prendre des vacances comme tout le monde. C'est pour avoir cette voiture, cette moto, cette fringue, ce t-shirt. Alors là, c'est la façon de consommer le même produit qui est différente. Donc, troisième point dans la réflexion, il faut aussi garder en tête le modèle parfait, le Seigneur. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur, alors le consommateur au sens biblique, celui qui amène à la perfection, le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12. Alors, je ne dis pas que c'était une situation de consommation, mais il y a quand même eu un choix. Et ce choix, le Seigneur l'a fait comment ? En gardant en tête sa mission. En gardant en tête la grandeur, la souveraineté, l'autorité de Dieu. Et gardant en tête aussi la conséquence ultime, la joie qui était devant lui. Il a méprisé la honte, ça ne veut pas dire qu'il a nié, ça ne veut pas dire qu'il a essayé d'oublier, ça ne veut pas dire qu'il a essayé de minimiser comme ça, c'est pas grave, ça va passer. Mais mépriser, ça veut dire attribuer une faible valeur à, attribuer un faible coefficient. Donc c'est ça qui lui a permis de voir, si j'ose dire, que le prix à payer était finalement moins grand que la récompense ou les effets positifs après. Réagir. Alors, il y a toute la question de l'éthique. Alors, c'est vrai que le chrétien devrait être, dans un sens, un modèle dans sa façon de consommer, malin, de consommer utile, de consommer propre. Je ne dis pas bio parce que, voilà, il paraît que c'est utile ou pas utile. En tous les cas, il y a une éthique chrétienne. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas le sujet. Mais Genèse 2, hein, tu prendras soin du jardin. Dans un sens, ça tient toujours. On n'est pas responsable en tant qu'Église, que corps de Christ, collectivement du monde, mais chacun est toujours responsable de ne pas contribuer avec le monde à la destruction de la planète. Il y a aussi la question de la justice sociale. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas forcément payer nos bananes au juste prix aux producteurs là-bas en Amérique centrale. Mais il faut quand même être conscient et, dans la mesure du possible, être juste dans notre façon de consommer. La sobriété, ça veut dire, en fait, ne pas exagérer. Ne pas arriver au point où il y a une perte de contrôle, ne pas arriver au point où on dépasse la satisfaction du besoin légitime, et puis continuer. Que ce soit donc dans la nourriture, dans la boisson, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans le sport, que ce soit en tout ce qu'on peut consommer, de la sobriété. Maîtrise de soi, la tempérance, il faut savoir se contrôler et dire je consomme jusqu'à tel point et puis après j'arrête. Volontairement, consciemment, délibérément, sans frustration particulière, mais je me fixe mes limites. La pratique du jeûne, alors le jeûne c'est le contraire de la consommation. C'est aussi le contraire de la dépendance. Et ça peut nous aider à prendre conscience de nos dépendances et de nos excès. Alors, il peut y avoir le jeûne alimentaire. Il peut y avoir aussi d'autres sortes de jeûnes. Par exemple, se passer d'Internet pendant un certain temps. Puis voir si on peut survivre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Se passer de journal, se passer de télévision, si on en a une. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a plus de temps, plus de liberté dans notre esprit, qu'on n'est pas toujours là. Il y a encore un message, une information. On prend plus de recul, on a plus de capacité à réfléchir, plus de disponibilité pour les autres, plus de disponibilité pour la famille, pour l'assemblée. Et ça nous aide à prendre conscience, d'un coup, peut-être de nos excès. Refuser le légalisme, ça c'est important aussi, pas condamner les autres. Le monde, c'est défini dans ce verset, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais dans le monde, il y a quoi ? Ce n'est pas des objets, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Donc le monde, on ne peut pas en faire une liste ou des limites de façon précise. Le monde, pour moi, c'est ce qui excite, attire ma convoitise. Mais ce n'est pas forcément la même chose pour d'autres. Il y a des gens qui convoitent sur la terre du pain frais, qui convoitent quelque chose qui est tout à fait évident pour nous. Vivre le renouvellement de l'intelligence, trouver son identité et sa valeur en Dieu. Alors vous lirez ces versets dans Tite 3, versets 3 à 7, oui. Dieu nous renouvelle notre entendement, notre intelligence. Trouver la satisfaction aussi de notre besoin de sécurité et de joie en Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Le chemin de la vie. Conclusion. Ben voilà, hier on est venu de la Suisse ici. 330 km. On n'est parti pas très tôt. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait un voyage? Ben, il faut penser à la destination. La destination, c'était Valence. Combien de kilomètres? Quelle moyenne? On avait le GPS, ça devait faire 3h20 quelque chose. On a fait 3h38. Bon, il y avait un petit bouchon quelque part. Moi, j'aime bien, quand je voyage, regarder un peu autour. S'il y a un endroit touristique, pourquoi pas faire un crochet pendant une heure ou deux? C'est intéressant. Pourquoi pas s'arrêter, faire une pause, discuter? Il y a des amis dans un village quelque part. Alors, ça dépend du temps qu'on a, de l'objectif qu'on a. Aucune route est interdite. Sur mon GPS, quelques sans interdit probablement, mais rien ne m'interdisait d'aller me promener sur la départementale, de passer par le Vercors ou des choses comme ça. Pas d'interdit, pas de légalisme. Mais on avait un objectif et un temps limité. Et c'est ça qui nous a amené à faire le trajet directement. Et puis il faut aussi penser à renouveler notre énergie, l'énergie consommée. C'est vrai que si on veut avancer dans notre vie, eh bien, il faut prendre le temps, dans un sens, de consommer utile, de consommer fondamental. Et renouveler notre énergie, c'est indispensable, sinon on va droit à ce qu'on appelle, ce qu'on appelait le surmenage ou je ne sais pas quoi, et maintenant on appelle ça burn-out. Alors c'est une réalité, et on est tous menacés par ça. L'épuisement de l'énergie, l'épuisement des ressources physiques, psychologiques, spirituelles. Alors il faut prendre le temps, comme dans un voyage, de renouveler notre carburant, et puis aussi de faire des pauses dans un voyage. S'arrêter, comme aujourd'hui, réfléchir, discuter, prier, c'est important. Alors j'ai beaucoup parlé, je veux quand même laisser la Bible conclure. Et on va lire ce verset. Alors je vais le lire en entier. La piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, besoin de base, nous serons satisfaits. Verset 11. Poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combats le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Verset 18. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'il soit prompt à donner, libéraux, s'amassant comme trésor, un bon fondement pour l'avenir, afin qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie. C'est ça l'enjeu, c'est ça la question, c'est ça le défi. Consommer librement, mais ne pas rater l'objectif, saisir ce qui est vraiment la vie.